Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin du gaz qui sent le soufre et la mort, celui que l'Europe achète massivement à la Russie de Vladimir Poutine. Il faudrait pouvoir s'en passer pour ne plus financer la guerre, mais comment ? C'est l'un des grands enjeux de ce conflit. Pour l'éclairer, nous serons ce matin à Kiev avec ceux qui restent et ceux qui partent, à Toulouse avec ceux qui ouvrent leurs portes et leurs bras aux réfugiés ukrainiens, à Poissy dans les Yvelines où Emmanuel Macron annonce un geste en préparation pour aider les Français à faire le plein. L'essence renchérie par la guerre frôle désormais les 2 euros. Président et candidat, s'il est réélu, Emmanuel Macron annonce aussi qu'il supprimera la redevance. Autant de sujets dont vous parlerez, Nicolas, avec l'invité du grand entretien.
Aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à notre micro avec Léa tout à l'heure. Vos questions aussi, vos réactions, amis auditeurs, 01 45 24 7000.
8 mars 2022, où en sont les droits des femmes en cette journée qui les célèbre? Niveau salaire, c'est toujours pas ça. Une grève féministe est lancée ce mardi. Enfin, Unis pour l'Ukraine, grand concert ce soir sur Inter et sur France 2, assorti d'un appel aux dons à la Croix-Rouge. Sur le plateau, Angélique Kidjo, Zazie, Florent Pagny, Jane Birkin, Clara Luciani, entre autres.
France Inter.
Si l'on veut arrêter Vladimir Poutine, il faut commencer par arrêter de lui acheter du gaz. L'appel de François Hollande dans une tribune ce matin sur le site du journal Le Monde. Acheter du gaz, c'est financer la guerre que nous condamnons, dit l'ancien président. Arrêter, c'est mettre notre courage à l'épreuve, réduire le chauffage l'hiver prochain et sortir de la dépendance vis-à-vis de la Russie, à qui l'on achète 40% du gaz importé en Europe. Delphine Simon, c'est l'enjeu majeur du moment, un vrai tournant pour l'Europe dont les dirigeants se réunissent en fin de semaine à Versailles.
Chaque année, l'Europe paye à la Russie pour son gaz et son pétrole 100 milliards d'euros, c'est deux fois le budget militaire russe. Se passer de ce gaz, c'est possible, mais pas facile, reconnaît le spécialiste énergie de l'Institut Jacques Delors, Thomas Pellerin-Carlin.
On n'arrivera pas à remplacer une molécule de gaz russe par une molécule de gaz non russe. La priorité des priorités, ça va être d'économiser notre consommation de gaz tout de suite, y compris par des actes citoyens, baisser la température dans les bureaux, dans les maisons. Ça peut jouer un rôle très significatif.
Objectif pour l'Agence internationale de l'énergie, réduire d'un tiers la dépendance de l'Europe d'ici l'hiver prochain. Le plus simple serait de diversifier les sources d'approvisionnement. Selon la commissaire européenne à l'énergie, depuis le début de l'année, l'Europe importe 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié du Qatar, des États-Unis ou du Japon. Il faut déjà penser à l'hiver prochain, prévoit Kadri Simpson.
C'est le moment de prendre conscience que nous avons besoin de sécuriser notre énergie. Au mois d'avril, le niveau de notre stock de gaz sera bien plus bas que d'habitude et nous devons commencer immédiatement à reconstituer des stocks qui vont nous permettre de nous chauffer l'hiver prochain.
L'Agence internationale de l'énergie conseille aussi aux États de mettre le turbo sur les énergies renouvelables et d'attendre un peu avant de fermer leurs centrales nucléaires. L'Allemagne et la Belgique y réfléchissent.
L'Europe dépendante du gaz russe, mais pas seulement, il y a aussi le pétrole et le charbon massivement importés de Russie, de quoi financer largement les ambitions de Vladimir Poutine malgré les sanctions déjà prises. Sur le terrain, cela donne 150 000 soldats russes en Ukraine, quasiment tous ceux qui étaient prépositionnés aux frontières avant le déclenchement de la guerre. Il y aura aussi des mercenaires syriens rompus à la guérilla urbaine et payés par les Russes, selon le Pentagone. En revanche, Vladimir Poutine annonce qu'il n'enverra ni conscrits ni réservistes en Ukraine. Voilà pour les agresseurs. Côté assiégé, trois options: combattre, fuir ou se terrer, comme le fait cette députée ukrainienne dans une capitale bientôt encerclée. Lesia Vassilenko, 34 ans, fusil à l'épaule, jointe à Kiev par Margot Karoff.
Chaque soir, Lesia Vassilenko change de cachette. Elle est hébergée par des amis ou des simples citoyens.
On a reçu des instructions comme parlementaire qu'on ne peut pas rester chez nous. Tous ces 12 jours, j'étais un petit peu partout, mais toujours autour de Kiev.
Depuis le déclenchement de la guerre, la députée d'opposition est armée en permanence d'un AK-47 distribué à chaque membre de la Rada, le Parlement ukrainien.
On est vraiment considéré comme cible par l'armée russe et on doit avoir des armes pour nous défendre et pour défendre nos familles.
Elle doit en effet protéger ses trois enfants, dont sa petite dernière, âgée d'à peine 9 mois. Et malgré le contexte dramatique, elle et les autres élus poursuivent leur mandat.
On essaie de faire tout pour que l'économie du pays fonctionne toujours. Il y a des parlementaires qui ont de l'expérience militaire, ils sont déjà dans l'armée. Des médecins, ils travaillent dans les hôpitaux.
Très active sur les réseaux sociaux, Lesia Vassilenko poste des photos, des victimes et des dégâts pour dénoncer la guerre.
Ça me fait enrager, ça me fait vraiment mal. on a beaucoup de haine, on est trop triste. Les autres moments, ça donne beaucoup du courage, beaucoup de...
Allô ? La liaison téléphonique s'interrompt, impossible finalement pour elle de rappeler. Il faut d'abord penser à sa propre sécurité.
Voilà, rester sous la menace ou partir. Ce matin encore, la Russie promet des cessez-le-feu pour permettre aux civils de fuir les villes assiégées via des couloirs humanitaires. Moscou avait déjà fait le coup hier, mais en proposant aux Ukrainiens de venir se réfugier en Russie.
Et ça n'est évidemment pas la destination de ceux qui prennent les routes de l'exode.
Bientôt 2 millions d'Ukrainiens, depuis 12 jours de guerre, se sont réfugiés dans les pays frontaliers de l'Ouest. Partir pour échapper aux bombes et aux combats qui se rapprochent de Kiev, où la gare ne désemplit pas. Reportage signé Boris Loumagne.
C'est au-dessus de leur force, ils n'en peuvent plus. Kosta, sa femme et leur petite fille quittent Kiev pour de bon.
Désormais, on doit emmener nos enfants dans un endroit plus sûr, sans explosions, sans les murs et les fenêtres qui tremblent.
Désormais, il faut fuir, se dit Kosta, se disent les gens dans la gare, Anna, une mère de famille.
Au début, on pensait que tout cela n'allait durer que quelques jours. On ne voulait pas partir de Kiev. Mais depuis 2 jours, on ne dort plus. On entend les bombardements. Désormais, on ne sait pas ce qu'il peut arriver. Chaque jour, il y a de plus en plus de bombes. Ça peut nous tomber dessus à tout moment.
Anna et ses deux petites filles vont tenter de rejoindre l'Autriche. Valérie, lui aussi, a 2 filles, mais elles sont déjà grandes, des ados. Valérie est journaliste. Il voulait rester à Kiev pour travailler. Mais voilà, il y a ses filles.
Il y a encore 3 jours, je voulais mettre mes filles dans un train, mais moi je serais resté. Mais elles m'ont dit, soit on part ensemble, soit on reste tous là. Alors je dois partir avec elles. Je les aime tellement.
Un train bondé s'apprête à partir, mais soudain, une femme sur le quai tambourine contre la porte. Dans la cohue, son enfant est monté à bord, mais pas elle. Des militaires crient au chauffeur d'ouvrir la porte. In extremis, la mère rejoint son fils. Ça y est, le train est parti.
Boris Loumagne à Kiev, à la gare de Kiev pour France Inter. Et quelle destination pour ces Ukrainiens au-delà de la Pologne, de la Roumanie ou de la Moldavie. En France, pour l'instant, ils sont moins de 5000 à avoir été enregistrés par la police aux frontières. Mais plusieurs villes s'organisent pour les accueillir. Un millier de familles se sont proposées à la mairie de Toulouse, par exemple. Cet homme qu'a rencontré Mélanie Juvet est prêt à mettre sa maison à disposition.
Jalal Aïdli n'est pas souvent chez lui. Ce responsable commercial dans l'aéronautique a tout de suite proposé d'ouvrir le temps qu'il faudra les portes de sa petite maison en banlieue de Toulouse.
Là, il y a un matelas, c'est quitté à ma fille, hein, je l'ai mis debout. Il y a ma chambre aussi, là. Voilà, il y a aussi là, il y a 2 places. J'ai une maison, je suis tout seul, je suis amené à voyager.
L'homme d'affaires est déjà allé en Ukraine, il travaille avec un distributeur pour vendre ses produits et il a gardé plusieurs amis.
Ces gens-là, ils sont quand même perdus. Ils sont désemparés, ils sont déstabilisés. Si on peut tendre la main sans que ça leur coûte 1 centime, ils viennent, ils sont à l'aise, ils sont chez eux. Pour moi, c'est quelque chose de naturel, voilà. Je suis fils d'immigrés, j'ai double nationalité, je suis tunisien et français. On a été accueillis, nous, à l'époque, avec tous les aléas de l'immigration qu'on peut connaître. Il y a eu des gens qui nous ont tendu la main. Je pense que c'est un juste retour des choses, voilà.
Pendant cette interview, son téléphone sonne.
Oui, Oksana. Très bien, merci, et toi ?
C'est Oksana, une Ukrainienne qui travaille aussi dans l'aéronautique et qui est en contact avec des familles cherchant des hébergements.
Elle me disait justement que les personnes par lesquelles elle a été contactée, ils ont des gamins handicapés. Je leur offre l'hospitalité, après ils font ce qu'ils veulent. C'est avec plaisir, tout simplement.
Une famille qui sera peut-être logée chez lui, si elle l'accepte, ou accompagnée par des associations pour aider les enfants en situation de handicap.
Mélanie Juvet, France Bleu Occitanie.
Il est 8h09, à la guerre comme à la guerre, il faut bien faire campagne à 34 jours de la présidentielle.
Et entre 2 coups de fil sur la situation en Ukraine, Emmanuel Macron a donc fait sa première sortie de candidat hier soir à Poissy, dans les Yvelines. Candidat mais président en même temps, sous sa casquette de président, il annonce le blocage du prix du gaz jusqu'à la fin de l'année et de nouveaux dispositifs pour aider les Français à faire le plein d'essence. Sous sa casquette de candidat, il promet la suppression d'un impôt s'il est réélu. Cet impôt, Simon Le Baron, c'est la redevance audiovisuelle qui finance Radio France, France Télé, Arte, France 24 et RFI.
Ce sont quelques secondes au détour d'une longue réponse sur le pouvoir d'achat.
On supprimera des impôts qui restent, la redevance télé en fait partie. C'est cohérent avec la suppression de la taxe d'habitation, faut aller au bout.
Comme une suite logique donc, mais une annonce très politique, à la fois populaire en ces temps d'inquiétude sur nos comptes en banque.
Moi je crois que je paye 13 euros par mois, ça doit faire 130 euros. Bon, bah, c'est toujours un petit plus.
Olivia paye 138 euros par an exactement, comme près de 23 millions de foyers. Et comme Stéphanie, elle sera ravie de les économiser.
Je pense que ça peut faire une différence pour beaucoup de personnes. Ça peut être une mesure intéressante pour le pouvoir d'achat.
Mais c'est aussi une façon de chasser à droite. Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour, qui accuse Emmanuel Macron de copier son programme. Tous veulent supprimer la redevance. Sébastien n'est pas contre, mais pas à n'importe quelle condition.
On ne peut qu'adhérer à cette mesure, sous réserve néanmoins qu'on ait des sources de financement pour nos médias publics.
L'équipe d'Emmanuel Macron assure qu'un mécanisme compensatoire sera mis en place. Pas question de privatiser l'audiovisuel public, contrairement aux candidats d'extrême droite. Mais le président sortant donnera le détail plus tard. Pour l'instant, confie un proche, l'idée était de focaliser l'attention sur une proposition forte.
Emmanuel Macron qui ne débattra pas avec les autres candidats avant le premier tour. Ils sont 12 avec lui. Aucun président en fonction ne l'a fait. Je ne vois pas pourquoi je ferais différemment, dit-il. Et les aspirants au poste de président ont déroulé leur proposition pour les femmes hier soir sur LCI, puisque c'est aujourd'hui la journée internationale pour les droits des femmes. Une soixantaine d'organisations, de syndicats, d'associations appellent d'ailleurs à une grève féministe. Les femmes appelées à cesser le travail au moins quelques heures, parce qu'elles gagnent toujours en moyenne 22% de moins que les hommes, Claire Chaudière.
Gants, balais et combinaisons dans la manifestation, comme Maria des années à se lever aux aurores pour aller nettoyer des bureaux à la Défense. Les femmes de ménage seront nombreuses dans les cortèges aujourd'hui, à l'issue de 2 années de mobilisation exceptionnelle.
Allez, vite, vous finissez pour pas bien faire les boulots. On a fait le mieux d'aller travailler. C'était terrible, c'est bien aussi de manifester.
Quand les femmes s'arrêtent, tout s'arrête.
Anne Leclerc du collectif On Arrête Toutes.
C'est marrant, cette année, j'ai vraiment l'impression, mais je suis pas toute seule, hein, que cette grève féministe, elle prend du poids. Des fois, c'est pas la journée, ça peut être 1 heure, 2 heures. Le fait d'avoir eu des bénéfices qui ont été engrangés pendant la période du Covid, bah, ça énerve.
Il faut dire qu'en 5 ans, les disparités salariales n'ont pas régressé, lâche Sigrid Girardin à la FSU.
Et les écarts n'ont pas bougé du tout, surtout le quinquennat. Alors dans la fonction publique, on est à 20%. Dans la filière administrative, elles sont à 27%.
Quant aux récentes revalorisations sectorielles, elles ne suffiront pas, regrette Sophie Binet à la CGT.
On fête les 50 ans de la loi sur l'égalité salariale cette année. En fait, on a une réflexion avec une calculette au lieu de penser en appliquant la loi.
À 15h40, heure symbolique à partir de laquelle les femmes travaillent gratuitement, les cadres en télétravail sont elles aussi invitées à se déconnecter et à rejoindre dans la rue les premières de corvée.
Claire Chaudière. Dans l'actualité encore ce matin, ces inondations qui frappent l'Australie depuis une semaine. Au moins 20 morts sur la côte est, des pluies diluviennes se sont abattues sur Sydney. Elles ont submergé des ponts, inondé des maisons, emporté des voitures. Le toit d'un supermarché s'est effondré et Grégory Pless, des milliers d'habitants sont appelés à évacuer.
C'est un véritable déluge auquel est confrontée la ville de Sydney, où dans certains quartiers totalement inondés, on se déplace désormais en bateau. C'est le cas par exemple dans le secteur de Manly, où en seulement 6 heures ce matin, 120 mm de pluie sont tombés. D'ailleurs, dans certaines rues, l'eau arrive désormais au niveau du toit des maisons. À travers tout l'état de Nouvelle-Galles du Sud, plus de 60 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile et les services de secours appellent la population à éviter autant que possible de se déplacer en voiture.
De nombreuses routes à Sydney sont inondées et ces précipitations vont continuer jusque dans la nuit. Je le répète, n'essayez pas de rouler sur une route inondée. Ces crues subites peuvent surprendre les automobilistes et être très dangereuses.
De fait, ces inondations ont tué 20 personnes ces derniers jours. La plupart ont été retrouvées dans leur voiture ou à proximité de celle-ci. C'est le cas par exemple d'une mère et de son fils dont les corps ont été retrouvés aujourd'hui dans une banlieue de l'ouest de Sydney. Les services de météorologie prévoient une accalmie à partir de demain, mais ils appellent également à rester vigilants. Les rivières, tout comme les sols déjà gorgés d'eau, pourraient de nouveau sortir de leur lit au cours des prochains jours. Sydney, Grégory Pless, France Inter.
Enfin, on en parlait avec la suppression de la redevance. Voici une opération qui fait l'honneur du service public de l'audiovisuel. Un grand concert ce soir sur France Inter et sur France 2 pour aider l'Ukraine. On entendra Clara Luciani, Florent Pagny, Pascal Obispo, Julien Clerc, Zazie, Carla Bruni, Jen Berkin, Angeliki, Joe, entre autres, et aussi Sofiane Pamar, ce jeune pianiste qui travaille avec les rappeurs. Il navigue entre hip-hop, classique et jazz. Et le voilà très ému de jouer ce soir pour l'Ukraine, car c'est un pays qui l'a inspiré.
C'est un pays que j'ai eu la chance de visiter, où j'ai eu la chance de jouer là-bas. Donc j'ai même des thèmes qui me sont sortis de cet endroit, donc j'y suis particulièrement attaché. Et moi j'essaie de faire une musique qui n'a pas de frontières et qui raconte toutes ces expériences que je peux avoir, de témoignages de ces pays qui sont magnifiques, ces populations qui ont quelque chose de très 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 particulier à chaque endroit où je vais. Moi j'ai eu un accueil mais incroyable de la part de l'Ukraine, avec une ouverture d'esprit, avec une créativité folle et avec des grands moments de partage. Et donc forcément ça m'affecte beaucoup. Notre rôle, c'est vraiment de permettre aussi de s'échapper et d'espérer. Et depuis petit, en fait, j'ai cette sensation qu'à chaque fois que je suis au piano, c'est comme s'il y avait une bulle à ce moment-là. Rien ne pourrait m'arriver parce que j'étais protégé par l'énergie de la musique. Et c'est cette émotion-là, j'ai envie de créer une bulle énorme où on est tous dedans, en paix et avec rien d'autre.
C'est Love, l'une des compositions de Sofiane Pamart, au micro d'Amélie Perrier pour ce grand concert ce soir sur France Inter et sur France 2 à 21h depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, Euromaster est partout au service de votre sécurité.
Et une matinée, Marie-Pierre, encore bien froide sur les trois quarts du pays.
Et oui, Nicolas, le mercure est descendu à moins 8 à Colmar, moins 7 à Épinal ou en Haute-Loire, moins 6 à Corté, où c'est d'ailleurs la 10e journée de gelée. Il fait moins 3 à Beauvais et Brive, 0 à Paris et Toulon, 4 à Quimper, contraste avec les 12 déjà à Biarritz. Alors côté ciel, alors que la matinée restera ensoleillée sur les deux tiers du pays, la perturbation arrive à rentrer par la façade atlantique et donne déjà des averses ce matin en Bretagne et au Pays Basque. Ça s'ennuie sur le Languedoc avec un bon vent d'automne qui accompagne aussi les pluies. On a quelques nuages qui se dessinent sur l'est de PACA et la Corse.
Et cette perturbation avancera l'après-midi.
Et oui, il va pleuvoir de l'Atlantique à la Normandie en descendant sur le Massif central jusqu'aux Pyrénées avec de la neige et la goutte froide qui circule en Méditerranée fait remonter les pluies sur tout le golfe du Lion avec un bon vent d'automne et des pluies qui gagneront également les Cévennes avec quelques flocons. Puis ça va se gâter aussi en Corse avec un bon vent qui se renforce et des averses. Alors que vous profiterez encore d'un après-midi sur les deux tiers du pays avec un mercure qui va remonter assez spectaculairement. On va gagner 4 à 6 degrés. On attend 11 à Lille, à Strasbourg, 12 à Bastia comme à Nantes. Il fera 13 à Montpellier, 14 à La Bouille, en Seine-Maritime comme à Lyon. Vous aurez 15 à Marseille, 16 à Bourges et Toulouse et 17 à Perpignan.
Merci Marie-Pierre et merci à vous d'écouter Inter. Il est 8h18.